Fidèles auditeurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. Nous sommes heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Pollution des rivières Chicapa et Kassai, quelle est la procédure de réparation? On en parle aujourd'hui dans cette émission. Nous avons déjà en ligne le professeur Raphaël Chimanga, directeur du Centre des recherches des ressources en eau du bassin du Congo. Professeur Raphaël Chimanga, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Nous allons également recevoir tout à l'heure le professeur Hassan Zovou, expert en droit de l'eau. Vous avez des questions et préoccupations, composez les 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Dans la deuxième partie de l'émission, nous allons parler de l'importance des états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire. Pour participer à ce programme, appelez au 081 890 63 94. Eh bien, Tati Mapuku assure la coordination et la réalisation de cette émission. William Lungamba à la mise en onde. Au micro, c'est Jody Daniel Keshama. Bienvenue à tous.
Radio Okapi. Okapi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Jody Daniel Keshama.
Pollution depuis trois semaines environ des rivières Chicapa et Kassai suite au déversement des déchets d'une entreprise minière angolaise. Les conséquences sont incalculables, perte des poissons, perturbation de la pêche, des cas de diarrhée sont signalés suite à la consommation de cette eau polluée. Alors tous ces préjudices méritent réparation selon les experts. Que prévoient les conventions régionales et internationales dans les secteurs de l'environnement pour ce genre de situation? Quelle est la procédure à suivre par le gouvernement congolais pour obtenir réparation? Eh bien, nous allons aborder toutes ces questions dans cette émission. Nous avons en ligne le professeur Raphaël Chimanga, directeur du Centre des recherches et du Centre de recherche des ressources en eau du bassin du Congo. Professeur Raphaël, encore une fois, bonjour.
Ah, bonjour, monsieur le journaliste.
Alors, avant de parler de la réparation, disons, quelles sont les conséquences qui ont été répertoriées de cette pollution de ces deux rivières?
Bon, monsieur le journaliste, merci beaucoup de m'avoir invité. Je dis que les conséquences immédiates qui ont été répertoriées sont en termes de la mortalité des poissons, comme nous l'avons vu. Il y a des personnes qui se plaignent sur les problèmes de santé. Et nous avons les grands mammifères qui ont été affectés, bien entendu. Et il y a aussi les problèmes d'usage de l'eau. L'eau ne peut pas être utilisée pour divers besoins tels que les besoins domestiques, les besoins de récréation et autres usages tels que navigation, par exemple. Pour la navigation à petite échelle. Donc ça sont déjà des conséquences immédiates qui ont été enregistrées, mais les conséquences, nous allons continuer à les déplorer. Nous allons continuer à les déplorer à court terme et à moyen terme. C'est ce qui doit être évalué pour le moment pour pouvoir établir les mesures de réponse en termes de réparation, aussi en termes de compensation.
Alors où est-ce qu'on en est avec l'évaluation?
Monsieur le journaliste, ça c'est quelque chose que nous devons déplorer ensemble. Nous devons déplorer. Je venais ce matin d'apprendre que il y a une équipe qui était descendue sur terrain, une équipe de chercheurs qu'on ne connaît pas les chercheurs qui sont descendus sur terrain. Et puis on dit qu'ils ont apporté des échantillons. Ces échantillons ont été analysés au laboratoire de vétérinaire de Kinshasa. En des termes le plus vague possible que je n'ai jamais entendu dans ma vie. Donc on dit non, il s'agirait de faire autant. Non, c'est que on décrit la situation d'une façon plus vague. Mais c'est quand même difficile à comprendre puisqu'il s'agit de deux parties. Il y a la partie angolaise, il y a la partie congolaise. Il faut que les résultats soient acceptables par tous. Et pour que les résultats soient acceptables par tous, il faut qu'il y ait une méthodologie définie. Méthodologie en termes de collecte des échantillons, méthodologie en termes d'analyse et aussi des personnes qui doivent participer à ça, des personnes connues. Et nous devons même faire intervenir les laboratoires internationaux pour que les résultats soient acceptés par tous. Il faut de l'objectivité. La pollution est là, nous devons évaluer la pollution pour évaluer la pollution et arriver aux mesures de réparation. Il faut un peu de l'objectivité dans la démarche méthodologique. Et on est en train de parler en des termes plus vagues, ce qu'on ne comprend pas.
Est-ce que ce ne sont pas des experts du ministère de l'Environnement qui ont été dépêchés?
La question, c'est une question transversale. Ce n'est pas une question d'un seul secteur, c'est une question transversale qui implique les hydrologues, les chimistes, les biologistes, qui implique les sociologues, qui implique... C'est sur base de ça que les 36 institutions réunies en atelier le 19 août ont pu formuler des recommandations sur 5 thématiques. Il y a la thématique environnement physique, environnement biologique, environnement social et économique, environnement juridique, politique et politique et diplomatique, mais il y a aussi l'environnement, il y a aussi la thématique sur la stratégie de communication. Donc les experts de 36 institutions se sont réunis, ils ont travaillé, ils ont formulé des recommandations. Nous voulons que ces recommandations soient mises en œuvre, c'est tout ce qu'on veut, c'est que la situation soit la pollution soit établie, mais pour que la pollution soit établie, il y a une certaine procédure. Et la procédure est vraiment est détaillée dans les recommandations qui avaient été faites. Et ces recommandations donc, identifient plusieurs institutions selon leur spécialité.
Professeur, est-ce que c'est ce groupe des experts, après votre rencontre, avez-vous approché le ministère de l'Environnement pour voir comment créer un cadre de collaboration?
Nous avons déposé, nous avons transmis les recommandations au ministère de l'Environnement, au Premier ministre, ministère de la Santé et les différents ministères impliqués dans le secteur de l'eau. Il y a plusieurs ministères et nous avons aussi travaillé avec le Comité national d'action de l'eau, hygiène et assainissement, qui est aussi un organe de coordination interministérielle dans le secteur de l'eau.
Donc jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore évalué de manière objective les conséquences de 3 semaines après, professeur.
Il n'y a pas cette évaluation objective jusqu'à présent et le temps est en train de passer, ce qu'on est en train de déplorer. Les échantillons ont été collectés où? Et quelle est la chaîne de l'échantillonnage de collecte des échantillons? C'est ça, il faut établir la variabilité, établir la concentration, comment elle s'est propagée. C'est en ce terme-là que nous pouvons bien arriver d'une façon objective à pouvoir quantifier l'ampleur des dégâts causés par cette pollution, cette tragédie que nous sommes en train de déplorer.
Mais nous savons qu'il y a une équipe de l'INRB qui était descendue sur place pour faire cette évaluation.
Je ne pense pas que l'équipe de l'INRB a été sur place, je ne pense pas. Et quand bien même qu'il fallait que l'équipe de l'INRB puisse descendre sur place, disons qu'il s'agit d'un problème de l'eau, n'est-ce pas? Et il y a des spécialistes dans le domaine de l'eau, dans le domaine d'hydrologie, hydrodynamique, qualité des eaux, toxicologie qui doivent être associées.
Voilà, on va accueillir un premier auditeur. Nous parlons de la pollution des rivières Chicapa et Kasai. Quelle est la procédure de réparation? Jean Heureux de Chilumba de Kikwita, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Jody Daniel Kassiama. Bonjour aussi à l'invité.
Quelle est votre question, Jean Heureux?
Ok, justement, c'est sur la pollution de l'eau ou bien de notre environnement. Donc, cela n'est pas un petit problème. Vous savez, notre pays a connu beaucoup de problèmes qui ne sont même pas résolus jusqu'à ces jours. Donc, notamment les cas de la pollution. Vous allez voir que ça, c'est un grand danger au milieu de la population. Parce que, vous savez, la rivière de Chicapa sert presque la majorité des populations. La régie des eaux n'est pas vraiment en capacité de servir la population de Chicapa en général. Alors, la population se sert à l'aide de cette eau-là. Vous savez, ça fait déjà plus de deux semaines depuis que cela a commencé, il n'y a aucune réaction. C'est tout à l'heure là, d'ailleurs c'était le samedi que nous avons suivi l'équipe du ministère de l'Environnement et des Sani là-bas pour ne pas proposer même des solutions. Et puis on les fait avec trop de négligence. Pourquoi? Parce que, vous savez, selon d'autres sources, nous aurions appris que non, ça provient de l'Angola. Alors, comment est-ce que on peut avoir une équipe congolaise et angolaise qui peuvent nous donner le bon résultat pour savoir si ça provient d'où? Parce que selon la source, nous confirme que non, il y a des produits toxiques. Alors, nous sommes en train de perdre beaucoup de richesses naturelles, des poissons et des mammifères. Vous le savez très bien que non, les hippopotames sont nos richesses. Alors, nous perdons tous ces animaux-là à cause d'une seule usine installée en Angola. Jusque-là, aucune déclaration officielle. Ça fait deux semaines. Et puis, la population est en train d'utiliser toujours cette eau-là. Ils se baignent avec. Il y en a même qui boivent même cette eau-là. Pourquoi? Parce que on n'a pas encore parlé de ça, par exemple, dans les médias nationaux, même provinciaux. Pourquoi? Parce que le gouvernement n'a pas aidé les journalistes à avoir la vraie source de cet événement. Donc, c'est pourquoi je vais juste demander à l'invité si il peut nous aider à nous donner les éclaircissements par rapport à l'équipe, parce que je l'ai suivi en train de parler d'une équipe. Alors, cette équipe-là est angolaise ou bien congolaise, ou bien il travaille en partenariat. C'est un peu ça, ma contribution et ma préoccupation.
Merci. Voilà. Merci Jean-Heureux. José Kankou, vous êtes aussi... vous êtes à Tshikapa. Bonjour.
C'est jeudi, Daniel Kachan.
Quelle est votre question, José?
Ok. Je voulais d'abord saluer notre invité, le professeur que j'ai suivi aujourd'hui sur la RFI. Il a rencontré quelques préoccupations que j'avais, mais ce qui reste inquiet est que nous ne sentons pas la ferme volonté du gouvernement sur l'indemnisation de la population et la nation congolaise. Donc, nous saluons premièrement l'arrivée de l'équipe gouvernementale qui a sa tête la VPM de l'environnement qui est sur place ici à Tshikapa.
José Kankou, dites-nous l'eau de la rivière Kasaï, dans quel état elle se trouve aujourd'hui? Est-ce que l'eau est toujours polluée? Qu'est-ce que vous faites pour
pour la consommer? Mais c'est jeudi, l'eau est en train de trouver son état stable, mais ce qui reste inquiet que la population commence déjà à utiliser l'eau, comme l'eau reprend déjà sa couleur, et puis ça a d'impact. Nous ne savons pas que le polluant est toujours là ou bien c'est fini, comme j'ai suivi le professeur sur la RFI qui disait que le polluant doit toujours être là, mais la population, comme elle n'est pas suffisamment informée, qu'il n'y a même pas une forte communication de la part du gouvernement, bon, nous ne savons pas ce que nous pouvons faire. C'est à peu près trois provinces qui sont victimes de cet incident. Et il y a une destruction méchante de l'environnement. Alors, quelle institution de la RDC pourrait-il saisir pour obtenir la réparation? Que peut-on attendre en termes d'indemnisation de la population affectée? Est-ce que la population qui utilise cette eau-là, qui est déjà, qui reprend déjà sa couleur normale, si la population utilise cette eau et que les polluants continuent toujours à être là, et ça a d'impact sur la santé, bon, nous ne sentons vraiment pas les gouvernements impliqués dans cette situation. Bon, c'est parce que c'est Kasaï ou quoi, nous n'attendons pas vraiment. L'État congolais doit vraiment veiller sur cet incident. C'est vraiment normal que mais la population réclame une réparation. Et c'est cet environnement même qui nourrit la population de Tshikapa. Vous voyez, les gens à Tshikapa font la pêche. La rivière Tshikapa, c'est entre les deux communes, les gens se servent de l'eau pour laver les habits. Et puis, la rivière Tshikapa et Kasaï, c'est tout près de la régie des eaux. Jusqu'à aujourd'hui, on continue à consommer l'eau de la régie des eaux. Bon, ça dépasse ou quoi? Il n'y a même pas ni forage, ni quoi. Nous ne sentons rien, ni du gouvernement provincial, ni du gouvernement central. En tout cas, c'est inquiétant. Et aussi en Angola, aucune personne n'est arrivée en Angola, ni de l'autorité provinciale ni nationale, pour s'enquérir de la situation. Il s'agit réellement d'un accident, de l'usine, ou bien ces métaux-là sont jetés par mauvaise foi, ou bien c'est quoi. Nous ne sentons réellement pas l'État mobilisé sur cette question-là.
D'accord.
C'est un peu ma préoccupation que j'avais.
Merci. Merci José de Tshikapa. Professeur Raphaël, votre réaction?
Merci beaucoup, monsieur Jodine Kachama. C'est que je salue d'abord les interventions de nos interlocuteurs. J'ai dit que, comme pour le premier intervenant, c'est que il s'agit bien de cas qui impliquent deux parties. Alors, pour la fiabilité même du processus et l'acceptation des résultats qui vont venir des analyses, il faudra impliquer les deux parties. La pollution est là, elle cause des dégâts, mais nous devons l'évaluer. Alors, comment l'évaluer? Il faut vraiment contacter l'autre partie. Je suis content que la communauté économique des États d'Afrique centrale est déjà impliquée, déjà saisie. Je venais d'échanger ce matin avec les directeurs de l'environnement de la communauté économique d'Afrique des États d'Afrique centrale qui ont poussé les gouvernements angolais. Ils ont adressé un mémo au gouvernement angolais et ils ont poussé les gouvernements angolais pour pouvoir collaborer. Je crois que notre gouvernement doit saisir cette opportunité et pousser davantage pour l'implication des deux équipes sur terrain pour l'évaluation des dégâts causés par cette pollution.
Professeur Raphaël, il semble que le gouvernement angolais aurait reconnu les faits et présenté des excuses.
Oui, c'est ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a eu quand même des pressions, notamment de la part de la communauté économique des États d'Afrique centrale, qui a pu faire un mémo au gouvernement angolais. C'est dans ce cadre-là que le gouvernement angolais est parvenu à pouvoir reconnaître l'origine de la pollution et que il y a une entreprise sur son sol qui est à la base, bien entendu, de cette pollution. Ça, c'est un. Mais c'est que il faut qu'on puisse identifier d'une façon exacte la nature des polluants pour pouvoir déterminer les actions à venir. Sur place, c'est que immédiatement, il semblerait qu'ils auraient identifié de quelques types de polluants, mais cela c'est indépendamment de la partie congolaise. Il faudra que ensemble avec la partie congolaise, on aille à la source pour pouvoir prélever les échantillons qui vont être analysés pour identifier normalement les types de polluants et aussi tout au long du parcours la concentration et l'ampleur de la concentration des polluants et l'ampleur des dégâts qui seraient survenus. Alors, l'indemnisation de communautés, comme Monsieur José Kankou venait de le dire, c'est que dans la deuxième partie, il y a le professeur Asser qui va bien parler des questions juridiques et qui va aborder comment est-ce que l'État congolais devra procéder pour pouvoir obtenir la compensation.
Bien, donc il y a nécessité de mettre en place une équipe mixte qui va faire l'évaluation, une équipe congolaise et angolaise pour travailler ensemble et faire l'évaluation des dégâts causés.
Ok, ça c'est très important pour l'acceptation des résultats et les mesures de compensation et de réparation qui vont venir, puisque ça doit être accepté par tous.
Bien, et puis José nous a dit que maintenant les gens ont repris. Les gens consomment de l'eau parce qu'il n'y a pas eu de forage, il n'y a pas eu une bonne communication de la part du gouvernement. La population commence à utiliser cette eau parce qu'elle s'est éclaircie un tout petit peu, mais il semble que les polluants sont toujours là.
Oui, mais Jodine Kachamba, ça c'est vraiment... C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. La population est placée devant un fait accompli. Mais ce que je dis, c'est que la population doit prendre beaucoup de mesures pour pouvoir se sécuriser. L'eau est polluée, n'est-ce pas? C'est pas pour dire que c'est pas lorsqu'on voit que l'eau, la coloration commence à redevenir normale que la pollution est dégagée. La pollution est piégée. La pollution est piégée dans les matières en suspension qui se trouvent dans l'eau et que les activités qui utilisent cette eau, ces activités vont être affectées. Donc, il est très prudent que la population puisse suivre les mesures des gouvernements du gouvernement provincial, aussi du gouvernement central, qui stipule que la population ne doit pas utiliser cette eau-là pour les besoins domestiques ou quel autre besoin. Ça, c'est très, très important pour le moment. Bien entendu, il faudra que les sociétés, les groupes de sociétés civiles, les scientifiques travaillent avec le gouvernement pour identifier les mesures alternatives pour pouvoir compenser à ce que la population manque maintenant en termes de services de ressources en eau.
Bien, on va accueillir Maître Mopila de Guémena et Monsieur Jean-Claude de la Société civile de l'environnement de Kindu. Maître Mopila, bonjour.
Bonjour aujourd'hui, bonjour à la population de Kassai et les autres populations concernées, cette fameuse pollution aujourd'hui. Ok, si je me rappelle bien, il y a un adage français en droit qui dit « le fait précède le droit ». Il y a un problème parce que les gens qui disent, avant de parler de la réparation, ils doivent comprendre quel est le fait, s'agit-il. C'est un constat fait par la population de la RDC, lequel constat, malheureux, ils ont constaté que non, la rivière de Kassai a été polluée. Qui en sait jamais, c'est une parenthèse. En soulevant l'information, la présomption, on cite l'État angolais, qui est, c'est vrai, c'est entre guillemets. Mais le problème de la réparation, si on prend le droit interne de notre pays, dans l'article 158, c'est le grand livre 3 qui paraît. Tout préjudice causé par une personne étrangère, il est obligé à cette personne de réparer les préjudices causés. Maintenant, à cette fois-ci, nous soulevons une convention internationale. Laquelle convention? On va examiner que dit la convention internationale. Pour examiner, j'ai aimé ce que l'invité a dit. Il a dit qu'il faut associer beaucoup d'experts. Mais il n'a pas cité les juristes. À qui c'est là où ils sont, il y a des grands professeurs de droit international, entre autres, le Boulaboula, le Lundabouloulou, et le Nyambirungu, et mon grand frère qui est ici, le président de l'Assemblée nationale, Obem Inaku. Ils sont bien, bien placés à trancher cette question en droit international. Mais néanmoins, si les poissons sont en train d'être détruits ou mourus au niveau des rivières Kassai, mais il faut les réparer. La grande question, il faut chercher qui est à la base de cette pollution. Si c'est l'État angolais, on va appliquer les droits internationaux pour réparer. Si on peut admettre, accepter que non, aujourd'hui les Congolais soient tués à cause des gens qui sont mal intentionnés. Et puis aussi, il faut observer l'actuel problème qui se passe à l'Est. Maintenant, les gens qui combattent les Congos ont changé de stratégie. Laquelle stratégie cherche comment à détruire? Si vous pensez à cet aspect-là, pour voir qui est à la base avant de demander la réparation.
D'accord.
La réparation, il faut voir les faits, c'est quoi? Et puis, parler en droit. Sinon, la réparation est certaine et évidente alors.
Bien, merci Maître Mopila de Guémena. Monsieur Jean-Claude, vous êtes à Kindu, vous êtes de la société civile environnementale de Kindu. Bonjour.
Oui, bonjour cher Jody et bonjour aussi à l'invité.
On vous écoute Jean-Claude.
Oui, Jody, d'entrée de jeu, moi je commence à saluer la pertinence de l'intervention du professeur Raphaël, parce que je l'ai vu au fur et à mesure depuis le début de cette situation. Moi, je pense que comme le prof a dit, c'est une question qui doit être traitée de manière transversale. On ne doit pas juste associer le secteur de l'environnement. Il y a aussi l'INRB, il y a aussi le ministère, les hydrologues et les autres. Et moi aussi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui a été prévu pour l'indemnisation de toute cette population-là, de toute cette communauté. Parce que imaginez-vous, ces gens, ce peuple riverain qui ne vivent que des rivières Chikapa et des rivières Kassai. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire pour le moment? Parce que au moins 80% de cette population ne dépend que de ces eaux. Cher, comme on a dit, le problème des eaux domestiques, tout ça. Moi, je pense qu'il faut mettre fin à cette situation parce que depuis la péripétie de cette situation, le gouvernement anglais semble être indifférent. Je n'ai pas vu un seul instant, peut-être, le professeur me donnait des éclaircissements, si le ministre des Affaires étrangères de l'Angola et l'ambassadeur de l'Angola dans notre pays a été interpellé pour voir qu'est-ce qui sera fait pour indemniser cette population aujourd'hui. Parce que ça demande une mobilisation tout à limite de toute la communauté internationale et de la SADC, même dans le cadre de la convention CITES. Parce que nous aussi, nous sommes affectés par cette situation aujourd'hui. C'était au moins ça ma petite préoccupation. Merci et je vous remercie.
Bien, professeur Raphaël.
Merci beaucoup. Je salue les interventions de Maître Mobila et Monsieur Jean-Claude. Je dirais à Maître Mobila que dans nos recommandations qui sont sorties de l'atelier des scientifiques et des experts réunissant 36 institutions de la place, c'est que nous avons tenu bien compte du cadre juridique, donc des juristes. C'est que ces recommandations sont axées sur 5 thématiques ou bien 5 groupes ou bien 5 axes d'intervention. Le premier axe d'intervention est celui de l'environnement physique, celui qui inclut l'hydrologie, l'hydrodynamique, les ressources en eau souterraine, les zones humides. Donc c'est le premier axe d'intervention. Le deuxième axe d'intervention est celui en rapport avec l'environnement biologique. Donc il y a la biodiversité, il y a les services écosystémiques, tout cela doit être pris en considération et nous devons travailler avec les experts qui sont dans le domaine. Il y a le troisième axe, c'est celui de l'environnement social et économique. Il y a les activités, la santé humaine qui est affectée, les activités socio-économiques de base qui sont affectées. Comment est-ce que nous pouvons envisager les mécanismes pour relever les populations qui sont affectées. Donc il y a des sociologues qui sont là, il y a des anthropologues qui doivent évaluer même les effets psychologiques de cette pollution sur la santé humaine. Il y a des médecins qui doivent intervenir. C'est dans ce cadre-là même que nous sommes en train de parler de l'intervention de l'INRB. Donc il y a un autre axe, c'est celui en rapport avec l'environnement politique, juridique et diplomatique. C'est que il faut un cadre de collaboration, mécanisme de collaboration avec l'autre partie prenante, donc la partie angolaise, voir comment est-ce que on peut faire intervenir les deux parties, arriver à la table, discuter, établir les dégâts, les évaluer et puis établir les mécanismes de compensation, les mécanismes de réparation. Tout cela, c'est dans le cadre juridique, bien entendu. Nous avons des éminents juristes qui sont là, qui doivent intervenir. Si au niveau de deux pays, on ne sait pas trouver des solutions, on devra maintenant faire intervenir les instances internationales. Nous avons aussi parlé de la stratégie de communication. C'est ici vraiment que les médias doivent être impliqués. On doit mobiliser le sensibiliser les populations riveraines sur les conséquences ou bien les risques de cette catastrophe pour que les mesures de sécurité soient prises. Alors c'est un peu ça, c'est pour apaiser Maître Mobila que dans le travail qui a été fait par les experts.
Désolé, le professeur Raphaël n'est plus en ligne, il y a quelques soucis au niveau de la ligne téléphonique. Je rappelle que le professeur Raphaël Chimanga est directeur du Centre des recherches des ressources en eau du bassin du Congo. Tout à l'heure, nous allons accueillir le professeur Asser Nzovu, expert en droit de l'eau et avocat au barreau du Kwilu. Avec lui, nous allons parler de la procédure à suivre pour obtenir réparation.
Allô?
C'est parce que Radio Okapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
à ça. Je suis vraiment ravi par la pertinence de votre service.
Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience.
Il n'a pas de travail.
Le intouchable dans ces pays n'existe pas.
Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Bien, nous parlons de la pollution des rivières Chikapa et Kasai. Quelle est la procédure de réparation? Merci à tous les internautes qui ont réagi nombreux sur la page Facebook d'Okapi Service par rapport à cette question. J'aurai l'occasion de lire quelques réactions tout à l'heure. Professeur Asser Nzovu, vous êtes en ligne. Bonjour. Professeur Asser Nzovu, bonjour.
Vous me suivez?
Oui, bonjour professeur.
Bonjour, bonjour.
Bien, vous êtes expert en droit de l'eau. Alors, dites-nous, professeur, ça fait presque deux semaines environ, depuis que la rivière Kasaï a été polluée. Bon, je parle des rivières Chicapa et Kasaï. Aujourd'hui, l'Angola a reconnu les faits. Alors, quelle est la procédure que le gouvernement congolais doit suivre pour obtenir réparation?
Merci beaucoup, monsieur Jody. Je crois qu'il y a quelques semaines, nous en avions parlé avec vous, parce que je vous avais même dit que dans mon livre qui vient de paraître, Le droit congolais de l'eau, dans le dernier titre, je parle justement de la réparation des atteintes à l'eau. Comment on peut procéder à cette réparation? Alors, s'agissant de la question qui nous occupe pour l'instant, vous devez savoir que la procédure de la réparation repose d'abord sur un régime et évidemment en droit de l'environnement et en droit de l'eau en particulier. Évidemment, la faute, elle est indifférente. Il suffit qu'il y ait des faits. La faute est indifférente. Mais surtout, ce qui est important, ce sont les dommages. Je voudrais justement dire que en ce qui concerne ces dommages-là, il faut les catégoriser. Les dommages causés à l'eau, que nous appelons les dommages environnementaux, les atteintes que l'eau a subies, ainsi que les écosystèmes qui y abritent. Vous avez les atteintes à la santé que les individus ont subies, le professeur Chimanga en a parlé. Vous avez aussi les atteintes matérielles, en fait les dommages matériels, de sorte que l'autre fois d'ailleurs nous avions parlé des mesures palliatives pour permettre aux populations, en attendant qu'ils reprennent l'eau de la source, comment les gouvernements devaient intervenir. Il fallait quantifier un certain nombre de moyens, des mesures à mettre en œuvre, un certain montant d'argent à débourser. Donc ce serait une perte matérielle qui serait évaluée parmi les dommages réparables. Mais justement ces dommages-là, ce qui est spécifique en droit de l'environnement, c'est que vous avez les dommages qu'on peut évaluer immédiatement. Maintenant, là, les dommages que l'eau a subis, les dommages que la population a subis, mais il y a aussi les dommages à long terme, parfois qu'on ne sait pas évaluer, que les générations futures peuvent subir du fait de la perte de la biodiversité, du fait de la perte des espèces qui a été constatée aujourd'hui. Donc c'est vraiment, comme le disait le professeur Chimanga, c'est une question qu'il faut prendre avec beaucoup de souplesse, avec beaucoup d'expertise, pour que l'on ne bricole pas. Et, sinon alors, on risque de ne pas avoir la vraie lecture de dommages. Alors maintenant que les dommages seront quantifiés, il faut identifier l'auteur du dommage. Et il est bien dit dans les faits qui sont narrés qu'il s'agit d'une entreprise basée en Angola. Alors, en ce moment-là, nous avons deux alternatives. D'abord, en ce qui concerne l'Angola comme État qui abrite cette industrie, et puis l'Angola comme, comment dirais-je, peut-être intervenant aussi dans cette entreprise-là, parce que je n'ai pas la nature de cette entreprise. Est-ce que c'est une entreprise para-étatique? Est-ce que c'est une entreprise privée? Donc, c'est des éléments qu'il faut évaluer. Mais en tant que tel, puisque la pollution est partie du territoire angolais, donc l'Angola doit endosser la responsabilité. Cette responsabilité est bien ciblée sur le plan international. On a plusieurs instruments, déjà depuis la déclaration de Stockholm, la déclaration de Rio. Vous avez par exemple les principes 21 et 22 qui interdisent aux États de causer les dommages aux autres États par rapport aux activités qui se déroulent sur leur territoire. Et ces déclarations ont connu évidemment un instrument juridique contraignant, même si nos États ne sont pas encore partis à cet instrument juridique. La Convention sur le droit relatif aux utilisations de cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation de 1997, il est bien établi que le principe de la non de l'utilisation non dommageable de son territoire est bien ancré. Et sur les plans du bassin, nous avons un additif que les États du bassin ont signé, et dans cet additif également, il est bien clair que les États doivent veiller à ce que les activités qui se déroulent sur leur territoire ne causent pas de dommages aux autres États.
Alors, professeur, je peux comprendre par là que, qu'après l'évaluation qui sera faite, le gouvernement congolais va porter plainte en bonne et due forme auprès d'une institution régionale qui s'occupe des questions environnementales.
Oui, je disais qu'il y a deux possibilités. Donc, il y a d'abord, si on veut, par rapport à l'État angolais ou par rapport à l'État, comment dire, à l'entreprise elle-même, parce que les victimes de la pollution ont également la possibilité de se regrouper et d'attraire ces industries-là directement devant les juridictions, soit angolaises, soit les juridictions congolaises, pour obtenir la réparation. Mais s'agissant des rapports entre États, évidemment ici, on ne va pas directement, pas vite en besogne en ce qui concerne la plainte. Il y a d'abord la voie diplomatique à utiliser, la coopération. D'ailleurs, c'est ce qui est dit dans l'additif de 2007 que les États du bassin du Congo ont signé. Il est bien clair que lorsqu'il y a un différend qui naît du fait de l'application des instruments juridiques qui concernent la protection des ressources en eau du bassin du Congo, il faut d'abord un arrangement à l'amiable. L'arrangement à l'amiable suppose que notre État doit utiliser sa diplomatie pour rencontrer la diplomatie angolaise afin que l'on établisse une commission qui va statuer sur cette question et déterminer la hauteur de préjudice, du dommage que nous avons subi et les modalités de réparation. C'est comme ça d'ailleurs que mon collègue, le professeur Chimanga, disait que ça ne doit pas se faire simplement ici, à notre niveau, au Congo, avec le ministère de l'Environnement, mais il faudrait qu'il y ait une commission qui soit établie de façon que la diplomatie soit active entre les deux États pour se mettre d'accord sur la hauteur des dommages et des modalités de réparation. C'est seulement si on ne se met pas d'accord au niveau de la diplomatie, à ce moment-là, l'État congolais peut attraire l'État angolais devant les juridictions internationales, en suivant bien sûr la procédure qui est prévue. Et là, justement, les États peuvent choisir un arbitre qui peut, statuer sur les litiges ou carrément aller devant les juridictions telles qu'établies en droit international.
Alors, bien. Un instant, professeur, on va accueillir deux auditeurs, Jotan Ekofo de Mbandaka et Malonga de Bandunduville. Jotan, bonjour.
Bonjour, j'ai dit bonjour à l'invité.
Quelle est votre question?
Bon, moi, personnellement, je vais rappeler dans quelques principes dits de blé, qui donnent l'accès aux quatre principes, qui est l'eau douce a un rôle important et fini et vulnérable. Et puis le deuxième qui est la mise en valeur de la gestion de l'eau. Et puis le troisième, les femmes jouent le central rôle d'approvisionnement en ressources en eau. Le quatrième nous parle de l'eau à une valeur économique. Donc, pour tous ces différents rôles que je viens de citer, là, cela montre que nous avons encore des besoins à résoudre par rapport à l'eau. Et sur ce, j'ai dit par rapport à la situation de la gestion de l'eau en notre pays, et je me pose souvent des questions. Quelles sont les alternatives que la politique de la gestion de l'eau que l'État congolais a mis pour la population qui est touchée? Et puis, est-ce qu'il y a la surveillance pour tous les problèmes et les décrets qui parlent de l'eau? Merci.
Bien, merci Jotan de Mbandaka. Nous donnons la parole à présent à Malonga de Bandunduville. Bonjour.
Bonjour Jody. Bonjour à notre invité, à tous ceux qui nous suivent.
Quelle est votre question?
Merci pour ces idées, en tout cas qui nous concernent, nous, les Kwilu, puisque nous étions vraiment victimes. Et jusqu'à présent, nous vivons dans la suspicion. Bon, je ne sais pas si ça va terminer à temps. Depuis que c'est tout a changé la couleur, la population de la RDC de ce contrée ici vive dans l'inquiétude. Il n'y a aucun secours étatique qui nous est déjà parvenu. Nous étions vraiment totalement abandonnés. Seulement que les pêcheurs, ils étaient pourchassés, ils étaient condamnés, ils étaient vraiment en insécurité avec les surveillances de l'état des marins. Ils ont été arrêtés. Bon, tout ça, nous avions subi ça suite à l'incident qui a été fait dans notre pays. Qu'est-ce que l'État congolais prépare déjà à cette, je peux appeler catastrophe, puisque ils expliquent que c'est un incident, ils ne savaient pas, mais il y a les ingénieurs là-bas. Pourquoi un ingénieur peut commettre ces dégâts vraiment qui va causer ce qui va causer.
Madame, alors, rapidement, quelle est la question? Les autres attendent.
Bon, la question est celle-ci. Qu'est-ce que notre pays nous prépare, nos gouvernants, nos gouvernants nous préparent, nous, qui avons subi vraiment le sort de ce qui s'était passé en Angola.
Bien, merci. Daniel Lungembo, vous êtes à Yabele, voilà. Daniel Lungembo Boulembo, Yabele, depuis Kisangani. Bonjour, Daniel. La ligne n'est pas très, très, très bonne. On vous entend difficilement. Daniel, est-ce que vous pouvez bouger un tout petit peu? Vous déplacer un tout petit peu? Peut-être que ça peut, les choses peuvent s'arranger.
Oui, je suis là, vous m'écoutez.
D'accord. Maintenant, ça va. Allez-y.
Oui, je suis Daniel Lungembo, vous m'appelez Kisangani.
Je viens de le dire, bon. Daniel. Quelle est la question?
Oui, d'abord, la RDC doit savoir que nous sommes dans une guerre de l'eau. Et le fait de verser les produits nuisibles ou toxiques dans la rivière Tikapa ou Kasai constitue déjà un crime international grave que cette société angolaise doit nécessairement répondre ou réparer. Alors, la procédure à faire par la RDC est de saisir une juridiction internationale, la CIJ, disons la Cour internationale de justice, pour que cette société angolaise puisse maintenant réparer les préjudices causés. Donc, l'intention de jeter les déchets par cette société est d'exterminer la population ou les personnes vivantes au Kasai. Les autorités congolaises doivent savoir que la vie humaine est sacrée et si les autorités congolaises classent cette affaire sans suite, je ne vois pas la raison, et les autorités congolaises puissent classer cette affaire sans suite, nous dirons que cela serait une négligence ou une méfiance. D'ailleurs, ça fait part de la considération. Donc, notre société angolaise jette déjà des déchets. Quelle est l'intention? L'intention est de tuer la population congolaise.
Bien, merci. Maintenant, notre invité va nous donner des précisions. Professeur Asernzovou, l'intention, quelle était l'intention de cette entreprise angolaise?
Oui, mais on ne sait pas imaginer l'intention. L'intention, c'est par rapport aux éléments qu'il faut réunir. Mais j'aurais appris que ce serait une fuite de la tuyauterie ou la fuite des digues qui étaient prévues pour contenir ces déchets qui a cédé. Alors, donc, ça, je dis, c'est la question des faits qu'il faut établir au regard des analyses qu'il faut faire. Mais s'agissant de la saisine de la juridiction interne...
Oh là là, quelques soucis au niveau de la communication, de la liaison téléphonique. Professeur Asser, vous êtes toujours là? Voilà, il y a quelques soucis au niveau de la ligne. Je crois que Tati Mapoukou va le rappeler. Entre temps, je vais lire quelques réactions des internautes. Fabien nous dit, il est à Kindu. Les conséquences de la pollution des milieux aquatiques sont multiples. Elles conduisent à des mortalités massives des espèces, mais elles ont aussi des effets moins visibles. Voilà, et il demande, cette situation peut, le pire peut survenir à Tikapa et peut survenir, voilà, auprès de nos frères qui sont dans la région des rivières Tikapa et Kasai. Il demande au gouvernement de faire quelque chose. Michel Mondonga, quant à moi, je propose qu'une enquête puisse se faire au sein de l'entreprise qui a pollué l'eau pour voir comment elle gère ses eaux usées. Et si ces eaux sont déversées dans la rivière, il faut aussi faire l'analyse physico-chimique au laboratoire avant d'établir les responsabilités. Et c'est Michel Mondonga depuis Kinshasa, Ngaliema. Alain Makouba, depuis Tikapa, je regrette de cette léthargie au sein du gouvernement central. Pendant que les eaux étaient polluées, personne n'est venu intervenir avant. Actuellement, l'eau est revenue à l'état normal. Pourquoi la fois passée, vous avez fait l'émission sans pourtant associer 85% des auditeurs de la ville de Tchikapa. Le phénomène est vécu à Tchikapa et non à Kananga. Merci à l'équipe. Bon, nous, on aborde les sujets et c'est à vous d'appeler pour intervenir dans l'émission. Nous, on n'a pas appelé les gens de Kananga pour poser des questions, Alain Makouba. Donc, on communique toujours le numéro. Vous voulez participer, eh bien, vous appelez au 081-890-6394 et vous pouvez poser vos questions ou bien donner votre point de vue. Professeur Asser, vous êtes de nouveau en ligne. Professeur Asser, vous êtes là?
Oui, oui, je suis là, je dis cachement.
Vous étiez en train de parler de mode de saisine?
Oui, oui, je disais que s'agissant justement de la juridiction internationale, dans le cadre du bassin du Congo, entre le Congo, notre Congo, notre pays et l'Angola, nous avons d'abord à mettre en œuvre l'arrangement l'additif que nous avions signé prévoit cette modalité comme préalable. C'est seulement si on ne s'entend pas à l'amiable que l'on peut voir la juridiction internationale à saisir pour la réparation. Mais en même temps, je disais que les victimes, les populations qui ont subi ces dommages-là, ont la possibilité d'aller directement devant les juridictions internes, c'est-à-dire les juridictions de la République démocratique du Congo, ou même devant les juridictions angolaises suivant la loi nationale pour attraire les entreprises qui ont déversé ces déchets, qui ont pollué, comment dirais-je, les ressources en eau. Donc les deux possibilités sont exploitables, mais c'est mieux que l'État prenne en charge cette question, que les victimes s'accrochent à l'action de l'État pour que finalement ils trouvent correctement les réparations, parce que initier une action devant les juridictions demande aussi un coût. Alors, s'agissant... Allô, je ne sais pas si vous me suivez.
Oui, allez-y, on vous écoute.
Oui, oui. Alors, s'agissant de ce que doit faire la République démocratique du Congo, dont a parlé Malonga, évidemment, c'est ce que nous disons, la République démocratique du Congo, en ce moment, doit activer sa diplomatie. La question doit se régler au niveau de la diplomatie en établissant une commission entre l'Angola et la République démocratique du Congo pour statuer cette question. Et cette commission doit être constituée des experts, comme d'ailleurs nous le disons dans notre livre, pour que justement cette dommage soit bien quantifié, pour que l'on voit est-ce que à l'amiable on peut procéder à la réparation, ou si on ne peut pas procéder, comment alors aller devant les juridictions internationales pour la réparation. Alors s'agissant des principes de la gestion des ressources en eau dont a parlé Jotan Dembandaka, c'est vrai, ça ce sont des principes généraux de la gestion des ressources en eau, mais là nous sommes en train de parler d'une question spécifique, c'est-à-dire que les ressources en eau ont subi des dommages environnementaux qui doivent s'évaluer par rapport à la souffrance que l'eau a subie, par rapport aux écosystèmes qui ont souffert, qui continuent à mourir, par rapport aux poissons, par rapport aux mammifères, mais aussi des conséquences à long terme par rapport aux générations futures qui peut-être vont manquer la jouissance des espèces et même les activités touristiques qui pouvaient se dérouler, ne peuvent plus se dérouler. La population n'a plus accès et on a la santé qui est impliquée. On a sur le plan économique les pêcheurs qui ont perdu tout ça ainsi de suite. Donc c'est une question spécifique qui concerne le dommage qu'on doit réparer. Et la procédure de la réparation, elle est là, comme nous le disons. Il appartient justement à l'État congolais d'activer sa diplomatie pour que cette question soit élucidée et que la République démocratique du Congo recouvre ce droit. Bien. Alors je disais que l'État même, la territorialité de ces dommages, c'est justement la raison d'être de la grande expertise, parce que depuis l'Angola jusque, je ne sais pas, à l'embouchure du fleuve Congo, on ne sait pas à mi-chemin et pendant tout le parcours, quels sont les dégâts qui ont été causés. Et donc l'expertise doit être détail, on ne doit pas minimiser l'expertise, aller prélever les échantillons à Tchikapa et revenir et croire qu'on a fait le travail. Non, on doit faire une évaluation sur tous les parcours de la pollution pour essayer de voir les conséquences immédiates, les conséquences à court et à long terme.
À long terme.
Et voilà, parce que les dommages environnementaux sont persistants dans les temps et même dans l'espace. Si on ne prend pas garde, on risque de faire un travail bâclé et on ne saura pas évaluer correctement. Ici, on sous-estime la réparation, mais c'est dommage pour la République démocratique du Congo, parce qu'en ce moment-là, les victimes ne vont pas recouvrir leurs droits, parce qu'en ce moment-là, même les générations futures dont je parle risquent
de ne pas se retrouver dans cette réparation.
Bien, si, d'accord, parce que là...
Au vu de la reconstitution des États,
oui. Oui, la réparation sera faite en fonction de l'évaluation qui sera faite.
Naturellement, c'est l'évaluation, ça s'évalue. J'ai parlé des dommages environnementaux,
d'accord.
J'ai parlé des dommages qui sur la santé, sur les hommes, l'intégrité physique et tout ça, les gens qui ont suivi, qui ont attrapé des maladies et tout ça. Sur le plan économique, les pêcheurs qui ont perdu leurs activités, et même sur le plan matériel, tout ce qu'on fait maintenant, tout ce
doit être évalué,
qu'on fait maintenant,
oui.
Pour essayer de prendre en charge les victimes, si évidemment on les fait, ça doit être quantifié pour que ça fasse partie de la hauteur des dommages, sans oublier certains dommages qui sont évidemment difficiles à apprécier en ce moment, hein, qui concerneront les générations futures, et même les dégâts qu'on pourra enregistrer dans les temps plus loin qu'on ne saura pas évaluer maintenant.
Bien, professeur Hassan Zovou, expert en droit de l'eau, merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler de la pollution des rivières Chicapa et Kasaï, et particulièrement de la procédure des réparations. Merci, excellente journée et à la prochaine.
Merci beaucoup, monsieur Jody Kachama.